Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 49 concernant la série très importante de la prière. Les deux thèmes que nous aurons aujourd'hui, c'est premièrement la prière en secret. Et deuxièmement, la prière pour les malades. Chers frères et sœurs et chers amis, Jésus-Christ nous a montré comment nous devons prier. Il nous a aussi enseigné comment nous devons obéir à tout ce qu'il dit et comment il veut ensuite répondre à nos besoins. Il dit « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père Céleste, il sait ce que vous avez vraiment besoin. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Saint Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33. Nous avons fait de notre piété quelque chose de très compliqué, alors que selon les paroles de Jésus-Christ, il s'agit de quelque chose de très simple. Nul besoin d'une longue préparation. Il nous faut avoir seulement un cœur disposé à recevoir. Et si nous mettons réellement notre confiance en Jésus-Christ, tout le reste prend la place qui lui revient. La vie d'un individu, elle peut être compliquée et il peut même paraître impossible de tout faire rentrer dans l'ordre sur le plan humain. Toutefois, nous pouvons apporter notre vie à Jésus-Christ qui, lui, peut facilement mettre de l'ordre là où règne le chaos. Je me souviens d'un jour de mon enfance où j'avais apporté à ma mère ma chaussure dont le lacet avait un nœud. Et plus je tirais, plus ce nœud se resserrait. Or, à ma grande stupéfaction, ma mère a travaillé avec beaucoup de douceur et a défait le nœud en un rien de temps. De la même manière, nous pouvons apporter à Jésus-Christ notre vie pleine de nœuds et de chaos, car Dieu, il a vraiment un plan pour chacun de nous. Un plan parfait et plus clair qu'aucun plan d'architecte. Nous ne pouvons pas voir ce plan à l'avance, et souvent nous ne pouvons en voir que l'endroit où nous sommes, l'heure que nous vivons, mais Dieu connaît l'heure, le jour, la semaine, tout ce qui va suivre. Et c'est parce qu'il a un plan pour notre vie entière qu'il en a donc aussi un pour cette année, pour ce mois-ci, cette semaine, ce jour et même à cette heure. Nous n'avons pas besoin de nous faire du souci quant à l'avenir. L'important, c'est d'avoir toujours en vue Jésus-Christ, l'heure après heure, et Satan, évidemment, il va venir et il veut nous écarter carrément de ce plan. Il y réussit parfois, mais nous pouvons toujours, toujours le réintégrer, heureusement pour nous. Quand quelqu'un est né de nouveau, croyez-moi, il est rempli de l'Esprit Saint. Il devient alors analogue à l'aiguille magnétique d'une boussole. Et cette aiguille trouve constamment la direction du nord. De même, nous sommes constamment orientés vers Jésus-Christ. Et lorsque se produit des événements qui nous font dévier de cette direction, nous sommes semblables à un compas de navigation désorienté par la présence d'un morceau de métal. Notre vie a donc dévié. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, nous sommes orientés vers Jésus-Christ. Quand nous sommes en communion avec Jésus-Christ et que nous sommes orientés vers lui, nos problèmes trouvent une solution et nos rêves deviennent réalité. En fait, il n'est qu'une chose qui soit nécessaire une fois que l'on devient enfant de Dieu, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, nous dit saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Tout ce qui est nécessaire, tout ce que votre cœur désire, tout sera accompli. Jésus-Christ est si merveilleux, mais évidemment cela exige de nous que nous recherchions d'abord son royaume et sa justice. Tel doit donc être notre premier et plus profond désir, c'est-à-dire notre plus grande soif. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Le royaume de Dieu est en vous » Saint Luc, chapitre 17, verset 21. Il ne dépend que de nous-mêmes que le royaume de Dieu sorte de l'invisible pour entrer dans le visible. Recherchez d'abord ce royaume et sa justice, de sorte que nous devenions nous-mêmes justice de Dieu. Oui, libre de toute faute, de toute anxiété, de toute susceptibilité, de toute jalousie, afin que nous ayons en nous ces qualités. Il ne s'agit donc pas de perfectionnisme, mais plutôt de rechercher de la perfection, de rechercher Dieu. Si tel est notre premier et plus grand désir, alors tous les problèmes de notre vie seront résolus et nos prières seront enfin exaucées. La soif de notre cœur, elle sera apaisée et toutes choses nous seront données. Dieu veut cela et il veut que cela devienne réalité dans notre vie et il est même prêt à exaucer notre prière. Toutes les fois qu'une prière est exaucée, cela glorifie le Père. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Saint Jean, chapitre 15, versets 7 et 8. Donc, il s'agit ici d'une promesse qui englobe absolument tout. Si vous faites ceci, votre prière sera exaucée et cette prière exaucée glorifie Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Autant de fruits qui mûrissent lorsque un individu cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est alors que notre vie sera une preuve vivante de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Nous deviendrons donc tes témoins, non seulement par la bouche, ah oui, mais aussi par notre vie, ce qui naturellement est beaucoup plus important, et c'est ce désir d'être un avec Jésus-Christ qui rend le problème si facile. Et c'est tellement simple qu'un enfant le comprend. De même, un vieillard sans beaucoup d'éducation peut être puissant dans la prière et faire l'expérience de la gloire de Dieu autant qu'un diplômé universitaire. J'en suis un exemple à près de 84 ans. Un de mes amis, voyant sa cuisinière lire tout simplement sa Bible, et ceci avec assiduité, il lui a dit un jour, « Marthe, Mais que faites-vous quand vous arrivez à un passage que vous ne comprenez absolument pas ? Elle a répondu magnifiquement. Je dis seulement « Alléluia » et je poursuis, a-t-elle répondu. Car si vous voulez comprendre quelque chose qui n'est pas clair, cela vous sera révélé en temps voulu. Alléluia ! Alors donc, chers amis, vous ne pouvez pas vous attendre à comprendre du premier coup tout ce qui se trouve dans la Bible. Mais tout ce qui vous concerne dans la Bible vous sera révélé lorsque vous en aurez besoin, croyez-moi, et si vous recherchez surtout la justice de Dieu. Une autre parole extraordinaire se trouve dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. Là, il est dit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Merci Seigneur, j'appelle cela la loi du secret. Il s'agit là encore d'une grande promesse. En avez-vous fait l'expérience, chers amis ? Cette action de Dieu, il vous le rendra. Et analogue au fruit de l'Esprit Saint, lorsque les caractéristiques de Christ marquent votre vie, Dieu en est glorifié. Et elle n'entre dans votre vie que par la prière persévérante. Donc, il est si facile de parler avec Dieu, croyez-moi. Ça ne doit pas être compliqué. Vous pouvez le faire comme si vous parliez simplement à un ami. Les expériences ne manquent pas dans ce domaine. Ne vous a-t-on jamais dit « Je voudrais bien avoir ta patience. Tu as des problèmes et des fardeaux de toutes sortes. Et pourtant, toi, tu n'es jamais énervé. Mais pourquoi cela ? Je voudrais tellement te ressembler. » Eh bien, chers amis, ne souhaiteriez-vous pas que l'on vous pose ce genre de questions ? Je puis vous assurer qu'on vous les posera bientôt, surtout si vous mettez en pratique Galates 5, où il est dit « Le fruit de l'Esprit Saint, c'est la patience. » Arrive-t-il que l'on dise de vous « Je voudrais être aussi aimable que lui ?» Jamais on ne l'entend critiquer quelqu'un, cet homme-là. Tout le monde l'aime. On dirait qu'il n'a que des amis. Dit-on cela de vous, mon cher ami ? Je puis vous assurer que cela deviendra une réalité, car l'amour est un fruit de l'Esprit Saint, et ce fruit se manifestera si vous passez beaucoup de temps en prière dans votre chambre, selon Saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. Irradiez-vous la joie ? Voyez-vous, la joie est aussi un fruit de l'Esprit Saint. Ce sont là des choses toutes simples qui prouvent que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Passez beaucoup de temps avec Christ, voilà l'essentiel. Et lorsque vous en serez convaincu, vous ne voudrez plus rester éloigné de cette possibilité. Si vous souhaitez apprendre, par exemple, à jouer du piano ou du violon, il vous faut vous entraîner au moins 2 heures par jour. Mais voilà, pour devenir virtuose, c'est une autre paire de manches. Là, vous devrez y consacrer 4, 5, voire même 6 heures par jour, figurez-vous. Eh bien, dans la vie spirituelle, il en va de même. Vous ne pourrez faire aucun progrès si vous vous y engagez en dilettante. Ce doit être votre premier désir. Recherchez le royaume de Dieu et votre prière sera exaucée. Jésus-Christ doit occuper tout simplement la première place. Il nous faut placer sa volonté au-dessus de la nôtre, ça c'est clair. Sinon, nous mettons notre ego au premier rang, notre ego sur le trône. Et croyez-moi, ça c'est pas tellement ce qu'il faut faire. Mais si nous laissons Christ occuper la première place, sans nous préoccuper de ce qui en résultera pour nous, alors les bénédictions pourront affluer et même nous submerger. Voyez-vous, il est stupéfiant carrément, de constater combien on sait généralement peu de choses sur la prière. Je voudrais vous guider quelques instants dans votre chambre pour vous montrer ce qui se passe derrière la porte. Cela ne constitue pas une méthode en soi, car dans la prière, vous devez être guidé par l'Esprit Saint, tout comme vous l'êtes dans la vie courante. Une fois que la porte est fermée, j'essayerai de faire le calme en moi. Asseyez-vous confortablement de manière à bien vous détendre. Et nous vivons une époque de tension où chaque minute est chargée de multiples sollicitations, de soucis qui ne sont pas étrangers à beaucoup de maladies. Et à cette tension sont liées nos humeurs, nos sentiments, notre jalousie, notre susceptibilité. Et lorsque nous nous mettons à prier, il faut laisser tomber tout cela. Il suffit de peu de choses pour pouvoir se détendre dans le giron de Dieu. Détendez-vous corporellement et vous serez débarrassé de toute angoisse, de toute crainte, de tout sentiment négatif. Prenez encore quelques minutes pour vous débarrasser de toute agitation, de toute irritation. Il est très simple de se détendre spirituellement. La détente corporelle, elle entraîne quasi automatiquement une détente spirituelle. Donc, prenez conscience que vous êtes sur une chaise solide, capable de supporter votre poids, à laquelle vous faites absolument confiance. Et là, maintenant, imaginez alors que ce siège soit la main de Dieu. Oui, et laissez-vous tomber entre ses bras éternels, selon Deutéronome chapitre 33, verset 27. Le croyez-vous vraiment? Si oui, alors vous pourrez vous rendre compte que ce n'est pas sur la chaise que vous vous appuyez, mais, alléluia, sur les bras de Dieu. Et laissez-vous porter par Dieu, fiez-vous entièrement à lui. Ne faites pas l'effort de vous remettre à lui avec des efforts, mais abandonnez-vous simplement entre ses bras. Permettez à Dieu de vous accompagner sur son chemin. Et c'est ainsi que l'on s'adonne à Dieu. Faites en l'expérience, hein? Faites simplement cette expérience-là et vous constaterez que l'Esprit Saint remplira votre âme. On me demande parfois comment on peut recevoir l'Esprit Saint. En voici, si vous voulez, une illustration toute simple. Pourquoi compliquer les choses? Lorsque vous faites couler le lait d'une bouteille, de l'air entre automatiquement pour occuper le volume libre, alors allez à Christ et répandez devant lui tout votre moi qui pêche souvent par orgueil, par jalousie ou par les soucis. Et c'est dans la mesure où vous vous débarrasserez de tout cela devant Christ que l'Esprit Saint entrera en vous. Telle est l'action de Dieu. Ce que nous devons faire consiste à laisser tomber. J'ai découvert en effet qu'il existe dans le domaine spirituel une loi de la pesanteur comparable à celle de la gravité dans le domaine physique. La deuxième chose à faire, c'est lire la Bible, surtout un passage qui me met en communion avec Dieu. Peu importe sa longueur, cela peut être simplement un chapitre ou même un seul verset, eh oui. Mais lorsque vous y rencontrez une vérité importante, alors arrêtez votre lecture et pensez à cette vérité. Méditez et demander à Dieu ce qu'il a voulu dire en la proclamant. Laissez ensuite votre raison qui va explorer cette vérité jusqu'à épuisement de vos possibilités. Il ne s'agit pas seulement de méditer sur cette vérité, il faut s'en imprégner pour qu'elle devienne une partie de notre être. Supposons que vous avez lu que Christ est semblable à un agneau que l'on mène à l'abattoir sans avoir ouvert la bouche. Isaïe, chapitre 53, verset 7. Quelle patience ! Elle vous surprend et vous fait réfléchir. Vous voulez posséder cette même patience et vous voulez demander qu'elle vous soit donnée. C'est alors que votre âme baignera dans la patience de Christ. Donnez-vous à lui afin qu'il demeure en vous et vous en lui. Prenez garde cependant, la méditation n'est qu'un exercice de pensée. Or, nous devons dépasser le simple niveau de la pensée pour atteindre celui de l'expérience. Quand nous sommes seuls avec Christ, être un avec lui, être en communion avec lui, voilà ce qui est beaucoup plus qu'une méditation, c'est une expérience. Et nous devons apprendre à conserver cette communion avec Christ. Il peut arriver qu'en entrant dans cette communion, notre âme soit remplie de joie. Donnons libre cours à cette joie en l'exprimant par la louange et par la reconnaissance. Sentez-vous le besoin de vous mettre à genoux? Oui, un peu d'humilité ne va pas nous faire du mal. Pour autant, évidemment, que le corps le permet. Il ne faut pas être fanatique, car si on a des douleurs épouvantables dans les jambes, les genoux ou le dos, évidemment, ça ne marchera pas. Et le Seigneur le sait. Et même debout, votre prière, ou assis, ou même couché, elle aura le même effet, car vous avez bien compris, ce n'est pas par l'apparence de notre corps qui prie que Dieu va être mieux disposé à répondre. Faites tout cela sans aucune retenue, car la porte est donc fermée, hein, et personne ne vous voit. Donc, la reconnaissance est un facteur important de l'exaucement de la prière. Aussi, remercier Dieu pour toutes sortes de choses. Pourquoi pas le remercier? C'est important, surtout quand vous êtes dans la détresse. La reconnaissance n'est pas seulement un acte de la pensée, c'est aussi un sentiment où nous disons « Merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi ». Pour vous faire une idée de la place qu'occupe la reconnaissance de la prière, eh bien faites tout simplement ceci. Essayez aujourd'hui même de remercier Dieu pendant seulement 3 minutes et sans rien lui demander. J'étais en déplacement accompagné de mon épouse et je donnais des conférences en divers lieux du pays. Or, chaque soir, de retour à l'hôtel, nous passions 1 heure à prier. En fait, nous n'avons jamais rien demandé. Alors, essayez à votre tour de passer un moment avec Dieu dans la prière sans rien lui demander. Et si vous le faites, croyez-moi, vous constaterez que l'Esprit Saint vous enveloppera. Et comment? Il vous sera peut-être donné de percevoir la présence de Christ. Et vous aurez alors l'impression de vous trouver en présence de Dieu, de son amour et de sa gloire. Que tout ce que vous faites soit dirigé par l'Esprit Saint au cours de votre prière. Dans le secret de votre chambre, par exemple, laissez-vous guider, oui, par l'impulsion du moment. J'ai découvert, pour ma part, qu'il s'agit là de la conduite de l'Esprit-Saint à laquelle il est facile de s'abandonner. Si un jour vous êtes poussé à confesser vos péchés, eh bien, vous éprouverez peut-être le besoin de vous mettre à genoux ou encore de vous coucher sur le sol, tout simplement. Vous savez bien que Jésus-Christ, totalement exempt de péché, il priait aussi dans cette position-là. N'hésitez donc pas devant les péchés que vous n'avez pas confessés. N'hésitez pas à les nommer un par un. Ne les chassez pas de votre esprit, mais prenez votre temps afin que tous soient confessés et pardonnés. Je ne dis pas qu'il faut tout faire dans cet ordre-là, géométriquement. Parfois, vous n'aurez besoin que d'exprimer deux ou trois sortes de prières. En tout cas, voici ce qu'il ne faut absolument pas négliger si nous voulons demeurer auprès de Christ. Premièrement, nous devons nous laisser tomber carrément dans les bras de Dieu. Deuxièmement, lire sa Sainte Bible. Troisièmement, méditer sur le texte lu. Quatrièmement, nous devons nous laisser imprégner par ce texte. Cinquièmement, nous devons exprimer toute notre reconnaissance. Et sixièmement, nous devons confesser nos péchés. Peut-on faire tout cela en 5 minutes? Combien de temps passez-vous chaque jour dans la prière? 20 ou 30 minutes suffisent-elles? Suffirait peut-être pour tout cela. Ce sont des choses qui prennent évidemment un peu de temps, mais elles sont très importantes. Nul besoin de nous fatiguer, et tandis que nous serons joyeux et remplis de l'amour de Dieu, Dieu répondra comme de surcroît à tous nos besoins, à nos besoins de la vie quotidienne, et il exaucera également nos prières, chers amis. Donc, passez, n'ayez pas peur, beaucoup de temps dans la prière. Deuxièmement, nous avons la prière pour les malades. Voilà une chose également très importante. Chers amis, je suis heureux qu'on m'ait demandé de parler de la prière pour les malades, car la maladie, c'est vraiment un problème pour toute la famille, pour tous les individus. On entend beaucoup d'affirmations contradictoires, et j'espère apporter un peu, par ces commentaires, une contribution constructive et utile pour vous tous. Toutefois, je préfère minimiser cet aspect de mon ministère, puisque voyez-vous, et souvenez-vous pour toujours, l'important, croyez-moi, l'important demeure avant tout la vie spirituelle de l'homme. Il ne servirait à rien d'être simplement guéri pour aller profiter davantage des choses viles du monde. Je n'ai pas dit que tout est vil, non, mais il y en a. Et de retomber pire qu'avant. Donc là, la guérison serait malvenue. Mais je parlerai d'abord de l'aspect positif. Ensuite, j'aborderai l'aspect négatif. Je toucherai au passage des questions difficiles pour beaucoup d'entre nous. Je n'emploie jamais l'expression guérison par la foi. Beaucoup confondent la prière pour le malade avec la guérison par la foi. Je n'emploie pas ce terme-là, car il souligne beaucoup trop la foi. Selon mon expérience, c'est Christ et non la foi qui effectue la guérison. Je répète, c'est Jésus-Christ et non la foi qui effectue la guérison. Soyons donc clairs sur ces deux points. Tout d'abord, la prière pour les malades n'empêche pas de faire appel aux médecins, mais pas du tout. Les médecins ne sont pas systématiquement du diable. D'ailleurs, leur rôle n'est pas du tout contraire à l'enseignement de la Bible. Il ne faut jamais oublier que l'un des disciples de Jésus-Christ était médecin. Et n'importe quel commentaire sérieux de la Bible ou dictionnaire biblique à propos de l'évangile de Saint-Luc vous le confirmera. Un fait est certain, chaque fois qu'il y a collaboration entre médecins et hommes d'église, le résultat est toujours beaucoup plus positif. En second lieu, pour être efficace dans la prière, il est impératif d'avoir la ferme conviction qu'on le sera. Peu importe qu'il s'agisse de la prière pour des malades, des problèmes financiers ou humains, il faut être convaincu que la prière a vraiment un sens. Nous sommes tous convaincus que Dieu est bon, qu'il est amour et qu'il est la perfection. En tant que tel, Dieu veut que tout soit parfait. Il a créé un univers parfait, un homme et une femme parfaite, et tout ce qu'il a créé était parfait. Dieu n'a pas changé. Il ressent encore aujourd'hui le désir de perfection qu'il éprouvait lors de la création de l'univers et de l'homme. Il a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour le guérir de ses imperfections et pour le rendre parfait. Là où est Dieu, là se trouve la perfection. Ceci est fondamental pour mon ministère, qu'il s'agisse de problèmes spirituels, corporels ou matériels. Je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu veuille moins que la perfection. Lorsque je prie pour un homme ou une femme qui souffre, je désire qu'il se produise dans cette situation ce qui est conforme à la volonté de Dieu, de telle manière que Dieu se serve de moi comme canal pour créer cette perfection. Et quand quelqu'un est malade, je ressens déjà, sur le plan humain, le désir de lui venir en aide. Mais je sais que Dieu éprouve ce désir avec une intensité mille fois plus forte que le souhaite au fait le malade lui-même. Outre ce que je viens de dire, je pense qu'il y a quatre raisons, oui, pour lesquelles Dieu veut que l'homme soit en bonne santé. Essayons d'examiner ces quatre raisons brièvement. Premièrement, je crois que Dieu veut que tout être humain se porte bien parce que Jésus-Christ a aidé tous ceux qui sont venus à lui. Il a guéri ceux qui lui ont été amenés ou qui sont venus à lui. Il n'existe aucun exemple où Christ a refusé son aide. Il n'a jamais demandé à quiconque « Es-tu un bon juif ?» ou « Il n'est pas bon que tu recouvres la santé, toi. Peut-être auras-tu de plus grandes bénédictions en restant bien malade. » Deuxièmement, nous constatons que Christ a envoyé ses disciples avec la même mission. Et oui, vous pouvez analyser cela et le découvrir. Il a dit aux apôtres, prêchez le royaume de Dieu et guérissez les malades. Saint Luc, chapitre 9, verset 2. Certains pourraient penser que cela ne concerne que les apôtres qui ont reçu une puissance particulière pour guérir les malades. Mais voyons le chapitre suivant de Saint Luc, où Christ a envoyé les 70 excusez-moi, 70, ce ne sont pas seulement un ou deux. Donc, il s'agit, si on veut bien le comprendre, de simples laïcs auxquels Christ déclare « Guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Saint Luc, chapitre 10, verset 9. Ce sont exactement les mêmes paroles, sauf que leur ordre est simplement inversé. La proclamation, c'est la bonne nouvelle que tout peut devenir parfait, y compris notre condition physique. La bonne nouvelle est destinée à ôter tout fardeau et à résoudre tout problème. La bonne nouvelle veut effacer tout péché, mais aussi de guérir la maladie. Elle veut extirper du cœur de l'homme la méchanceté, l'orgueil, la jalousie et ôter du monde toute colère. La maladie, elle est souvent inséparable de tout le reste. Toutes ces choses appartiennent à la totalité de l'humanité souffrante. Et Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour sauver le monde. Nous avons perdu totalement cette vaste vision. Les disciples se sont allés, ils ont fait ce que Christ avait dit, et des signes et des miracles se sont produits partout où ils sont allés. Troisièmement, la troisième raison qui me fait croire que Dieu veut que tout soit parfait, c'est que Christ est mort pour nos maladies autant que pour nos péchés. Oui, tout au long des Saintes Écritures, on constate que péché et maladie vont absolument de pair. Dans le psaume 103, on lit ceci. « Lui qui pardonne toutes tes fautes, lui qui guérit toutes tes maladies. » Et dans Saint Luc, chapitre 5, verset 23, on lit ceci. « Quel est le plus facile de dire ? Tes péchés te sont remis ? Ou de dire « Lève-toi et marche. » C'est Isaïe, ou Ésaïe, c'est la même chose, qui déclare dans le célèbre chapitre 53, au verset 4, « Or ce sont nos maladies qu'il portait, ce sont nos douleurs dont il prenait la charge. » Et nous arrivons à quatrièmement, oui, la quatrième raison est très simple. J'ai déjà vu Christ guérir tant de personnes que même si la Bible ne le mentionnait pas, je serais forcé de croire à sa toute-puissance. Je sais que cela ne vient pas de moi, surtout pas, mais de Dieu. S'il y a un miracle, je sais qu'il en est l'auteur. C'est donc à lui seul que je rends gloire. Christ est bien le médecin divin. Certains affirment, si ta foi est assez forte, tu pourras guérir. Or, après des années de travail dans ce domaine, je peux affirmer qu'il n'en est rien, bien que Christ ait dit, va, car ta foi t'a sauvé, ou elle a sauvé le malade. Nous avons un Dieu souverain, croyez-moi, qui est capable de guérir une personne, même si sa foi de cette dernière est faible et peut-être même chancelante. Il n'est pas du tout question de minimiser la foi dans la prière, bien entendu. La foi est très importante, mais ce n'est pas elle seule qui opère la guérison, mais c'est Christ. C'est Christ qu'il faut donc faire beaucoup plus attention à lui. Et c'est vers lui qu'il nous faut tourner nos regards. On se pose de multiples questions. Certaines ont trait à ceci, on ne trouve aucun verset, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, dont on pourrait déduire que c'est la volonté de Dieu que les hommes soient malades. Oui, en effet, aucun verset, aucun récit, aucun mot n'appuie cette idée-là. Nous essayons naturellement de trouver un texte favorable à cette idée qui nous permette de justifier notre manque de puissance dans ce domaine. La première question avancée est la suivante. Qu'en est-il de Saint Paul et de l'écharde en sa chair? 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. De quoi donc s'agit-il? Eh bien, la plupart du temps, nous l'ignorons. Nous pouvons seulement supposer certaines choses. Si nous ne savons pas ce que c'était vraiment, il est donc difficile d'en tirer un argument pour justifier que la maladie est voulue par Dieu. Dans le cas de l'apôtre Paul, nous ne pouvons que faire des suppositions. Il est peut-être vrai que la grâce du Seigneur était suffisante, et s'il avait été trop fort, oui, il se peut qu'il n'aurait jamais été ce qu'il a été, c'est-à-dire un instrument tellement puissant entre les mains de son Sauveur bien-aimé. Certes, il y a des choses qui nous échappent, et dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, Christ a déclaré: « Ma grâce te suffit ». Mais il est impossible de rapporter cette expression uniquement à la maladie. La bonté et l'amour de Dieu constituent une vérité globale, et la grâce de Dieu est toujours absolument suffisante pour celui qui se confie en Dieu dans tous les domaines de ses épreuves. Qu'il s'agisse d'un fardeau financier ou familial, la grâce de Dieu sera toujours suffisante. Dieu vous soutiendra et vous donnera la force de supporter le fardeau même si l'on n'est pas toujours exaucé. D'autres disent, si vraiment votre Dieu veut aider les hommes, pourquoi donc Saint Paul n'a-t-il pas guéri Timothée? Eh bien, c'est pour la même raison que Dieu n'a pas guéri beaucoup de personnes par lesquelles et pour lesquelles j'ai vraiment prié. Il en a été sans doute de même pour ses disciples. La sainte parole de Dieu ne cite que ceux qui ont été guéris, et elle ne mentionne pas les milliers d'autres qui ne l'ont pas été. La Bible parle de miracles qui se sont produits. Peut-être avez-vous autant que moi fait l'expérience de la prière exaucée et de la guérison. Si, ayant prié pour 1000 personnes, seulement 10 avaient retrouvé la santé, n'y aurait-il pas là une raison de rendre grâce? S'il n'y a que 10% de guérison parmi les gens pour qui je prie ou que vous priez, eh bien, je remercie Dieu. Si ce n'est que pour une seule personne même, je remercie encore et toujours Dieu. Et s'il n'y a aucune guérison, eh bien, je continuerai quand même à le remercier. Voyez-vous, d'autres disent encore ceci: tu as prié, mais il ou elle n'a pas du tout été guéri. Pourquoi cela? Du fait que nous ne sommes, il me semble, pas des anges, bien loin de là. Nous sommes que des faibles humains par rapport aux anges qui, eux, sont tout autre chose. Qu'est-ce qu'ils sont merveilleux! Nous sommes très limités et nous ne connaissons pas toutes les raisons de telle et telle chose. Faisons la comparaison avec deux cercles. Oui, le premier cercle est celui de mon champ de responsabilité. Le second cercle est celui du champ de la responsabilité de Dieu. Ces deux cercles se touchent très certainement, mais ils ne se coupent en aucun point. Ceci est donc ma responsabilité, c'est d'obéir à Christ, c'est de vivre pour lui et de prier, même s'il s'agit de la prière pour les malades. C'est la responsabilité de Dieu à lui de pardonner les péchés. Moi, je suis incapable de pardonner les péchés de qui que ce soit. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui guérit les malades. Et de faire des miracles, c'est faire les miracles uniquement par lui. Mais si les résultats attendus par les hommes ne sont pas atteints, eh bien, je ne demande à Dieu aucune explication. Ça, c'est son affaire et non la mienne. Mon amour envers lui et ma foi en lui ne vont pas varier pour cela. Je ne vais pas tout à coup me dire « Sut, je envoie tout balader ». Non, mon amour pour lui restera toujours ferme. Malgré l'ennemi qui chuchote à l'oreille gauche ou à l'oreille droite, toutes sortes de choses déplaisantes, je n'ose pas dire qu'il n'accomplit pas ses promesses lorsque la guérison demandée n'est pas tout à fait comme on voudrait. Nous ne savons pas, ou si vous voulez, nous savons que très peu de choses sur Dieu, et encore moins sur son plan pour cette dispensation. Nous devons nous rendre compte que Dieu sait infiniment plus de choses que nous, puisqu'il est Dieu. Lorsque nous prions pour un malade, nous venons à Dieu comme un simple enfant qui lui demanderait de le guérir. Je ne dis jamais à un malade « Dieu vous guérira » si vous priez suffisamment fort et si votre foi est assez forte, ou que Dieu vous guérira quand vous serez peut-être devenu un jour parfait. Alors là, nous ne serons, croyez-moi, jamais parfaits. Et nous ne savons jamais si Dieu le fera, ni quand, ni comment il le fera. Notre rôle à nous, c'est seulement d'espérer en lui, de croire fermement. Croire ne veut pas du tout dire savoir que la prière est exaucée. D'autres demandent encore, pourquoi tel ou tel n'est-il pas guéri? Parfois, c'est aussi Satan qui susurre ce pourquoi. Pour rester clair dans tout cela, je rappelle l'essentiel. Nos prières sont exaucés selon le plan du royaume de Dieu où se produisent aussi des guérisons. Malheureusement, il nous arrive souvent de ne pas vivre sur ce plan-là. Toute maladie résulte du péché. Ce n'est pas conforme à la Bible de dire que Dieu veut que l'homme soit malade. Toutefois, lorsque nous affirmons que la maladie résulte du péché, cela ne veut pas dire qu'il s'agit du péché personnel du malade, car bien des hommes doivent parfois souffrir en raison du péché de leurs aïeux. Hein, ça peut être leurs parents ou même leurs arrière-parents qui ont fait des choses qu'on ne veut peut-être pas nommer ici, que eux seuls pourraient nous dire, mais ils ne sont plus là. Un exemple en est l'épidémie de grippe qui a suivi la Première Guerre mondiale et qui a fait 20 millions de victimes. Elle a sévi sur une foule de pays. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une épidémie de poliomyélite que la science n'a jamais pu expliquer. mais il y a des gens parmi nous qui croient en connaître l'origine. On ne peut pas précipiter le monde dans le chaos sans que les hommes en souffrent. Voyez-vous, si votre foyer, dans votre foyer, un membre de votre famille éprouve de la haine, les enfants ne peuvent que en pâtir. Il peut arriver qu'en grandissant, il se développe en eux des conflits affectifs, origine de maladies, uniquement parce que un membre de la famille a le cœur rempli de haine et de colère, ou que ce membre de la famille a carrément pratiqué des choses occultes dont nous ne voulons pas citer les détails, mais qui sont évidemment une conséquence drastique et malheureuse pour ceux qui viennent après. Romains chapitre 8 nous l'explique, c'est par là que vient la mort. Les bacilles prolifèrent dans un milieu où règne pas seulement la poussière, mais l'envie, l'inquiétude, la haine et la jalousie. Et c'est pourquoi les médecins disent toujours « Ne vous faites pas tant de soucis ». Quand vous êtes malade et que vous agitez toutes sortes de soucis, vous évoluez dans une atmosphère de manque de foi et votre médecin tentera toujours de vous réconforter, par la foi en des médicaments et en le recouvrement de la santé. Mais ce don nous avons le plus besoin, c'est évidemment la foi en Dieu. Elle seule peut ramener la paix dans notre cœur. Et cela est une voie où les germes de la maladie ne peuvent se développer aussi bien que sur le terrain des sentiments négatifs. Il va sans dire que si quelqu'un a de la haine ou de l'amertume envers quelqu'un d'autre, dans sa propre famille ou ailleurs, il ne reste plus qu'une chose à faire. Autant que possible, il faut aller trouver la personne concernée et faire la paix avec elle en lui demandant humblement pardon. Tant que cela n'est pas fait, toute prière devient inutile et demeure stérile. Ça, c'est une chose sérieuse. Et bien entendu, notre orgueil nous permet rarement, puisque c'est Satan qui le veut ainsi, que nous allons demander pardon. Pour cela, il faudrait de l'humilité, et ça nous manque souvent. Parfois, une petite voix nous assure « Il faudra bien que tu meures un jour ». Eh bien, ça c'est clair. Mais je n'ai pas dit que toutes les maladies sont le chemin qui mène à la mort. C'est là une astuce de Satan. Nul n'a besoin de tomber tellement malade pour mourir. Beaucoup étaient en bonne santé juste avant leur mort. Dieu n'a fait aucune promesse fixant la durée de vie de chacun d'entre nous. La vie lui appartient et il se réserve le droit de la réclamer quand bon lui semble. Excusez-moi. N'oublions pas que le paradis est incomparablement beaucoup plus beau que l'existence que nous menons ici-bas. Et ça, croyez-moi, c'est une réalité incontournable. Ici-bas, ça va pas très fort. Si on regarde les journaux, la télévision et toutes les nouvelles de chaque jour, ça fait plutôt peur. J'en suis tellement convaincu que je ne prie jamais pour qu'un homme ou une femme ne meure jamais. Je ne voudrais pas écarter, ne serait-ce qu'une heure, quelqu'un du paradis. Les chrétiens qui se lamentent à la mort d'une personne offre une image totalement déformé, bien que on ne peut pas rire à ce moment-là, ce serait insensé, évidemment. Christ a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, fût-il même mort, vivra. » Saint Jean, chapitre 11, verset 25. C'est quand même merveilleux, cela. On pourrait représenter les choses par le schéma suivant. Une ligne droite à une extrémité, nous avons le péché, et à l'autre extrémité, nous avons la mort. Et au milieu, nous avons la maladie. Nous nous tournons vers Dieu avec notre péché et nous lui demandons pardon. Et si nous le faisons sérieusement, le pardon vient en nous et nous donne donc une manière qui est invisible pour le moment. Mais pour ce qui est de la mort, je ne connais personne qui ait prié pour la résurrection des morts, bien que nous sachions que cela s'est produit. L'Écriture sainte déclare que la mort est le dernier ennemi qu'il faut vaincre. Le péché, la mort, et entre ces deux extrêmes-là, il y a la maladie. Quand nous prions pour des malades, certains guérissent, d'autres pas. Pourquoi ne guérissent-ils pas toujours? Eh bien oui, c'est une question. Une explication est peut-être que nous sommes toujours les gardiens de nos frères. Chacun d'entre nous a une influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et cela sur notre entourage. Il peut donc arriver que ma maladie n'est pas pour origine mon propre péché, mais que je suis malade parce que je suis membre de l'humanité qui, elle, a tourné le dos à Dieu, qui a détruit tout ce qui aurait pu nous aider à être en meilleure santé. L'air est pollué, l'eau, elle est bientôt imbuvable, il y aura bientôt plus de poissons, on ne pourra plus se nourrir. Donc tout cela, c'est, je ne crois pas que ce soit la faute à Dieu. Hein? Réfléchissez bien et vous trouverez la réponse. Mais je suis sûr que même en n'étant pas trop gentil, vous ne pourrez jamais trouver que c'est la faute à Dieu. Et c'est parce que les hommes ne vivent plus selon le plan originel fixé par Dieu, qu'ils sont assaillis par toutes sortes de maladies. La plupart des maladies ont affaire avec la désobéissance, mais il serait injuste de suspecter automatiquement son prochain. Nous devons donc commencer par nous-mêmes. Nous sommes tous dans le même bain. Sondez votre cœur et pensez que la maladie est due au péché collectif de l'humanité. J'ai bien dit collectif de l'humanité, dont moi j'en fais partie. Et si tout est bientôt pollué partout, c'est aussi bien ma faute que la faute de tous ceux qui m'environnent, ce qui peut être le cas sans que vous puissiez jamais en avoir la certitude. Un célèbre médecin, il a dit un jour, j'ai environ 4000 patients dont 70% ont des maladies provoquées par les soucis et la sensibilité à l'égard de leur entourage. Il a entrepris d'étudier la parole de Dieu avec certains d'entre eux pour qu'ils apprennent comment Christ veut qu'ils vivent. Il les a encouragés à rejoindre un cercle de chrétiens et beaucoup ont été guéris en commençant par l'intérieur de leur être. La science médicale est maintenant convaincue qu'un très fort pourcentage de maladies, certains avancent 70%, est d'origine psychosomatique, c'est-à-dire qu'elle touche au domaine ou à la raison et les sentiments entrent en conflit. Donc cela provoque beaucoup de maladies telles que des ulcères, des tumeurs, des cancers, etc. Et tout médecin traitant une personne pour un ulcère par exemple, ne manque pas de poser la question suivante. Pourquoi vous faites-vous tellement de soucis? Il recherche donc toujours la raison principale de l'ulcère dans ce domaine-là qui a pour nom souci, angoisse et tension. Je ne souhaite pas m'étendre sur ce sujet, mais simplement je vous exhorte à fonder votre foi sur Christ et à prier et à vous attendre à son action. Un jour, j'ai rendu visite à une dame qui s'était foulée la cheville tout simplement, mais quand même douloureusement. Or, j'ai posé la main sur la partie douloureuse et j'ai prié le Seigneur d'ôter la douleur. Le Seigneur l'a même complètement guérie. 3 jours après, cette femme se plaignait à nouveau de douleur à la même cheville. Or, sa fillette, âgée de seulement 5 ans, elle s'est précipitée vers sa maman, elle s'est agenouillée, elle a entouré l'articulation de ses petites mains innocentes et elle a demandé à Christ d'enlever la douleur. Eh bien, croyez-moi, la prière a été absolument exaucée. N'avons-nous pas parfois, cher ami, besoin d'une telle foi? Christ a dit, si vous ne croyez pas comme un petit enfant, Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3, or là, on a eu un exemple d'une petite fille. Chers frères et sœurs, nous pouvons prier pour beaucoup de malades et ils peuvent guérir. Mais j'ose affirmer publiquement, si vous aimez vraiment le Seigneur, si vous croyez et faites ce qu'il dit, et si vous priez avec beaucoup d'amour pour celui, pour celle qui souffre, la douleur disparaîtra ou diminuera dans les minutes ou les jours qui suivent. Il se peut que le mal demeure, mais les douleurs seront atténuées. Telle a toujours été mon expérience, et je sais que c'est aussi l'expérience de beaucoup de chrétiens. Oui, beaucoup de chrétiens qui prient souvent pour des malades. Il y a beaucoup plus de femmes qui font cela aujourd'hui, puisque les hommes se croient beaucoup trop fiers pour avoir un peu d'humilité pour cela. Parfois, des malades guérissent à la suite de l'onction d'huile qui est décrite clairement dans Jacques chapitre 5, verset 14. Le plus souvent, je n'emploie pas l'huile parce que je ne voudrais pas que le malade place sa foi ailleurs qu'en Christ, bien que ce ne soit pas faux de l'utiliser, mais simplement pour éviter que le malade place sa foi dans l'huile. Je voudrais clore sur ceci, qui va peut-être répondre à une foule de questions. Je ne prie jamais pour les malades en employant, par exemple, la formule qui est très utilisée, si telle est ta volonté, Seigneur. J'ai constaté que la plupart des gens terminent presque toutes leurs prières pour des malades avec cette formule qui est « si c'est dans ta volonté ». Mais curieusement, ils n'utilisent pas cette formule-là pour d'autres sujets de prière. Je préfère dire « Seigneur, voici ton enfant, il ou elle est malade. Fais reposer sur lui, sur elle, ta puissance, afin que ton Saint-Nom soit glorifié. » nous devons toujours maintenir nos prières dans le cadre de la volonté de Dieu, évidemment. Nous savons que Dieu veut que nous fassions le bien et non pas le mal. Nous ne prions pas assez, « Seigneur, aide-moi à faire le bien, si c'est ta volonté. » Je répète, nous ne prions pas dans le sens de dire « Seigneur, aide-moi à faire le bien, si c'est peut-être dans ta volonté. » Mais aide-moi à ne pas fâcher mon épouse. Ça non plus, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas dire « Aide-moi, s'il te plaît, à ne pas énerver, à ne pas frapper mon épouse, si c'est ta volonté. » Si nous ajoutons toujours cette formule-là, cela pourrait devenir ridicule. Il se peut que Dieu fasse sortir d'excellents résultats, ça c'est clair, de la maladie elle-même. Et n'oublions pas que Dieu domine tout de même la maladie pour sa sainte gloire. Pourtant, Christ a prononcé cette prière dans le jardin de Gethsémani. Il a dit dans Saint Matthieu chapitre 26, « Cependant, comme moi je veux, cependant, pas comme seulement moi je veux, mais comme toi tu veux, Père. » Saint Matthieu 26, verset 39. Pourquoi a-t-il prié ainsi? Non pour ses propres péchés, ça c'est évident, ni à cause d'une maladie personnelle, il n'en avait pas. Il luttait avec Dieu pour quelque chose de beaucoup plus terrible, c'est pour la croix. Il ne s'agissait pas des souffrances corporelles qu'il allait devoir endurer sur la croix, pas du tout, bien que c'était quelque chose de terrible. Il s'agissait des milliers de gens qui ont enduré des souffrances analogues, mais il luttait vraiment pour ne pas être séparé de l'amour de Dieu. Et en pensant à cette extrémité, en luttant carrément avec Dieu, avec son Père, il a vu sa sueur même se transformer en grumeaux de sang. Et à cet instant-là, toute l'humanité perdue, l'humanité est vraiment perdue. Et à cause de quoi? À cause du péché, il a dû, lui, apparaître tout cela, le mettre dans son cœur. Et il a su que c'était là le plan de Dieu pour effacer les péchés et pour effacer la maladie. Quand il a vu qu'il devait endosser tout le péché de l'humanité et toutes ses conséquences, il a prononcé ces mots. « Mon Père, si cela ne peut passer sans que je le boive, que soit faite ta volonté. » Saint Matthieu 26, verset 42. Ce qui signifie, si par là, le péché et la maladie doivent être vaincus, alors je veux bien aller jusqu'au bout pour t'obéir. Et voilà ce qui s'est produit à la croix. Dieu et Christ ont été séparés l'un de l'autre un bref instant. Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, a-t-il dit. Christ s'est laissé séparer de l'amour de Dieu pour un petit moment. Il est mort loin de son Père bien-aimé afin que le péché n'existe plus. Il a fait tout cela pour nous, que la maladie et même la mort puissent être supprimées de notre vie. Chers frères et sœurs, avant de prier pour les malades, j'aimerais que nous ayons un moment de recueillement. Et si pendant que je prie, quelqu'un se sent poussé par l'Esprit Saint à demander pardon à telle ou telle personne, qu'il ou elle se réconcilient maintenant. Si cela n'est pas possible, qu'il ou elle le fasse plus tard, voire par écrit, si la personne concernée demeure, habite loin d'elle ou loin de lui. Chers amis, vous pouvez prier vous-même calmement dans votre chambre, là où vous vous trouvez. Faites-le, je vous en supplie. Aussi, si vous allez vraiment le faire, alors je vais pouvoir prier pour vous maintenant. Et je vous demanderai une chose qui peut paraître un peu bizarre, mais qui n'est pas du tout insensée. Je voudrais vous demander tout simplement de mettre votre main sur l'endroit qui vous fait mal, sur l'endroit qui représente votre maladie. Et si cela vous est possible, faites-le, mais même si vous ne pouvez pas le faire, cela n'est pas absolument indispensable, mais pas du tout. Mais si vous pouvez le faire, mettez votre main là où se trouve votre problème. Et prions ensemble maintenant. Tout simplement, répétez dans votre cœur, selon vos mots à vous, ou en répétant ce que je vais dire. Prions. Seigneur, celui que tu aimes, celle que tu aimes, est malade. J'ose te demander que sa maladie ne soit point à la mort, mais qu'elle serve à ta gloire et à sa sanctification. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu en ce monde. Je crois que tu es la résurrection et la vie, et que celui qui croit en toi vivra encore qu'il soit mort, et que tous ceux qui vivent et qui croient en toi vont être secourus. Oui, je crois, Seigneur, aide et soutiens mon peu de foi. Tu as guéri tant de malades pendant le temps de ta vie mortelle. À la prière et à la considération de ceux qui te les présentaient, je ne suis pas digne de me présenter devant toi et je ne mérite pas que tu aies égard à ma prière. Mais je sais que le pain des enfants ne doit point être jeté aux chiens, mais que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Si tu veux, tu peux le guérir, la guérir maintenant. Dis simplement une parole et il ou elle sera guéri. Touche-toi maintenant la main de la personne qui pose sa main sur l'endroit douloureux ou qui est le problème de la maladie, et agis-toi maintenant avec ta main guérissante. Fais servir cette maladie corporelle à la guérison de son âme et à notre instruction. Donne-lui, donne à elle la patience et à nous surtout la charité. Exauce-le, exauce-la au jour de son affliction. Sauve-le, oui, sauve-la et donne-nous la joie de te louer encore ici-bas avec lui, avec elle, dans ton saint temple, et de te bénir à jamais dans le ciel. Mon Père céleste, Dieu tout-puissant, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais je sais, après avoir soigneusement étudié ta sainte parole, que jamais tu donneras une chose mauvaise à celui ou à celle qui implore et qui supplie maintenant ton aide et ton secours. Merci de nous exaucer maintenant. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et j'espère que vous écouterez ceux qui suivent, car tout cela va nous approcher encore davantage du Seigneur, va nous fortifier, et tellement que nous serons beaucoup plus forts pour vaincre toutes les tentations qui nous environnent, qui sont de plus en plus nombreux, surtout actuellement, dans ce monde tourmenté. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta patience, pour ta charité et pour ta compassion. Loué sois-tu, Dieu éternel, Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour l'éternité en éternité. Amen.